BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là sur BFM Business et bienvenue à VivaTech pour ce deuxième Tech & Co, la quotidienne, depuis ce grand salon dédié à la tech. Vous le savez, ici à Paris, porte de Versailles, on est très heureux d'être là. Le studio de BFM Business qui est au cœur de ce salon qui réunit l'excellence de la tech française mais aussi internationale. Avec au sommaire pour ce Tech & Co ce soir, eh bien dans quelques instants, je recevrai Jérôme Monceau qui est le patron d'Enchanted Tools. Il y aura un robot sur le plateau de Tech & Co et pas n'importe lequel, il s'agit de Miroki. Et vous verrez qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on arrive à faire des choses incroyables. Eric Carrel aussi sera mon invité. C'est le patron et le fondateur de WeThings. On parlera e-santé avec lui. Et puis, on reviendra sur la polémique Volocopter. Vous le savez, ces hélicoptères électriques qui doivent voler durant les JO, ben justement, voleront-ils pendant les JO? On posera la question au directeur général d'ADP qui sera mon invité. Merci d'être là, bienvenue. Tech & Co, la quotidienne, jusqu'à 21h30.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et pour débuter ce Tech & Co, la quotidienne, depuis VivaTech, jour 2, le débrief de ce grand salon avec Frédéric Simotel. Salut Fred.
Salut François, salut à tous.
Voilà, journaliste à BFM Business qui, ça y est, investit VivaTech. Et croyez-moi, VivaTech s'en souviendra. Quand Frédéric Simotel est là, personne ne l'oublie. Et à ses côtés, c'est Pierre Vanier qui est là. Salut Pierre.
Salut, salut François, salut Frédéric.
Ravi de te retrouver, Pierre, fondateur et PDG de Flint. Et c'est intéressant parce que Pierre Vanier vit son premier VivaTech.
Ah ouais.
Il va nous en parler dans un instant.
Le baptême.
Le baptême. Ça va, ça s'est bien passé?
Comme Marina Ferrari, son premier.
Voilà, à part ta boisson énergisante tout à l'heure, qui m'a un peu déçu.
Oui, je suis désolé.
Voilà, on ne va pas tout raconter, bien évidemment, parce que vous savez qu'il y a le off de VivaTech qui est très important. Frédéric Simotel, pour débuter, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine de ce salon et à quoi il sert. Parce que c'est vrai que parfois on peut se poser la question, alors ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais il y a les salons qu'on connaît, CES, on sait que c'est l'innovation, salon d'envergure internationale, MWC à Barcelone, salon des télécoms avec toutes les têtes pensantes des télécoms qui sont là parce qu'on fait du business.
Salon B2B, oui.
Voilà, un peu comme le CES d'ailleurs, où il y a du business. VivaTech, à qui s'adresse ce salon?
VivaTech, ça a été dès le départ, et d'ailleurs, il faut mettre très en avant ce qu'a voulu Maurice Lévy, dès le départ. Il avait fait une première réunion il y a pas mal d'années, il avait invité Mark Zuckerberg, et il s'est dit à un moment, il faut aller plus loin. Donc il a monté ce salon. Et alors, la première chose qu'il a fait, en bon patron de publiciste, c'est d'aller voir tous ses gros clients, les Carrefour, les Total, les EDF, et leur dire, écoutez, venez sur le salon, et tiens, pour montrer l'innovation, quoi de mieux que amener les startups avec lesquelles vous pensez, vous travaillez ou vous allez travailler. Et donc c'est parti de là. On avait ces grandes entreprises LVMH, Carrefour qui venaient avec leurs startups. Et puis voilà, ça s'est développé. Alors il y a eu évidemment la parenthèse Covid.
Oui,
et aujourd'hui c'est le rendez-vous des startups et des grandes entreprises. C'est comme ça qu'il faut le voir. On a quelques figures de la tech qui sont là dans les conférences, parfois, parce que c'est vrai que ça draine aussi
les gens. Oui, il y a du show quand même.
Il y a du show ici, il y a beaucoup de gens qui regardent en ligne ces conférences, donc il faut aussi. On aura Elon Musk, on le rappelle aujourd'hui, alors en visio. Mais voilà, il y a quelques grands noms, il y a Bernard Arnault qui sera là.
Mais est-ce que les grands patrons sont là?
Non, alors c'est ça. Moi, pour parler avec quelques execs.
On parle de grands patrons, pardon,
excuse-moi. Non,
excuse-moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est pas ici que des grands patrons du digital, de Total, LVMH vont rencontrer les patrons de Qualcomm, les patrons de Intel, les patrons de Microsoft. Non, par contre,
c'est pas un salon de business.
C'est un salon de business au niveau des startups.
Voilà.
Je crois que Julien Vidré l'a dit hier dans le patron de l'innovation d'EDF.
Mais c'est pas ici que se signent les gros contrats.
Voilà, on signe les contrats avec les startups, on se partage les bonnes idées, les bonnes pratiques. Mais les gros contrats entre grandes entreprises, c'est pas ici que ça se joue.
Pierre, alors ton sentiment, premier VivaTech. Qu'est-ce qui ressort en fait de
ça? Pour moi, si tu veux, je suis dans la tech depuis 25 ans et ce que je...
Ça ne se voit pas?
Non, merci, c'est gentil,
je t'en prie.
Comme toi. Mais je suis assez mitigé, j'ai quand même l'impression que c'est un salon qui est... c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas effectivement un salon pure bise. Parce qu'il y a beaucoup de grand public, il y a beaucoup de... mais c'est pas, tu vois, non plus un salon pur showcase, pure vitrine. C'est un petit peu entre les deux. Et je pense que ce qui me semble un peu compliqué pour VivaTech, c'est de trouver cette place justement entre un salon pur business B2B et un salon pur showcase, etc. Donc après, pour revenir sur
Après, bon... il faut pas bouder notre plaisir.
Surtout pas,
grand rendez-vous sur la tech.
On trouve juste l'axe de développement de ce salon.
Voilà, qui est aujourd'hui d'une envergure internationale, c'est plutôt positif.
Qui, à mon avis, de plus en plus difficile à mesure que les salons et les événements grossissent. De garder, en fait, finalement, ta vision, ta trame initiale, etc. Et puis aujourd'hui, tu as une sursollicitation de ces grands patrons, sursollicitation de tout le monde. C'est la course aussi au nombre, aux chiffres. On annonce 150 000 personnes, 120 000 au CES. Donc c'est un peu vraiment cette course au nombre, aux chiffres. Donc voilà, moi en tant que professionnel, je suis assez mitigé par rapport à ce que je vois.
Après, c'est un salon qui va jouer sur l'acculturation justement au digital, parce que longtemps on mettait le digital, alors un peu côté CES, un peu sur les gadgets, tout ça, et dans l'entreprise, bon, c'était l'IT, c'était le système d'information. Dans le grand public, c'était les iPhones, voilà, les jeux vidéo. Et là aujourd'hui, on l'a vu lors de Choose France, cet événement qui réunissait des grands, alors là pour le coup, des grands patrons du CAC 40. On est passé de la French Tech à la tech en France. Donc ce salon là, il est aussi pour montrer la France. On a des entreprises, des géants, et on a aussi des startups qui sont en train de monter. Donc c'est un salon intéressant pour ça.
Pour terminer là-dessus, c'est vrai que c'est un peu pas stupide, mais mal à propos de comparer ce salon avec le CES.
Ah non,
par
surtout
exemple.
Pas. Surtout
ça n'a rien
pas.
À voir. Non, mais parce qu'il y a toujours cette bataille des chiffres, ouais. 130 000 d'un côté, 150 par là, enfin bref. Mais finalement, ça n'a rien à voir.
Mais c'est
parce
très les... français en fait, ça, oui, de se puis, comparer tout le temps aux États-Unis.
La valeur d'une présence au CES n'a peut-être pas la même valeur de présence ici aussi.
Non.
Tu vois enfin, donc c'est.
Je pense qu'il faut mieux essayer de travailler
n'a pas de sens.
Particularités. Oui. En France, plutôt que d'essayer de copier vaguement un CES. Et pour revenir sur ce que tu dis, moi je vois quand même beaucoup de gadgets, je vois quand même beaucoup de choses qui sont soit pas prêtes, soit qui vont pas perdurer dans le temps. Je rappelle la société Humane qui fait le petit wearable qu'on a vu,
bien sûr,
cherche à être
les iPin,
cherche à être racheté.
Alors ils l'ont dit officiellement, enfin c'est des
rumeurs qui sont assez persistantes. Okay. Et ce qui paraît logique, parce qu'ils ont été concrètement extrêmement abîmés par un reviewer très très connu de YouTube, qui les a terminés à signer leur arrêt de mort. Donc il y a aussi une espèce de frénésie. En fait, on copie les États-Unis sur le fameux fake it till you make it. Tant que tu peux montrer que tu as envie de le faire, et je vais prendre différents exemples. OpenAI nous a vraiment fait rêver il y a une quinzaine de jours avec la keynote, mais il y a encore tout un tas de modèles qui ne vont pas être prêts. Hier, vous parliez de cette voiture, cette espèce de combi.
Oui, bien sûr.
De Renault.
Renault et de WeSings.
Exactement.
On en parlera tout à l'heure.
Software République.
You First Vision.
Software, exactement.
Qui n'est pas que médical, ça peut être l'aide à l'apprentissage. Enfin, il y a plein de fonctions.
C'est pas prêt.
On en reparlera
loin d'être
tout à l'heure avec Eric Carrel, le patron de WeSings, qui sera là. Pardon.
Carrément.
Vas-y, Pierre.
Ouais. C'est aujourd'hui, c'est pas prêt. On nous annonce des choses, mais en fait, c'est des choses qui sont encore trop fraîches, qui sont pas sécurisées. Google, c'est pareil, il y a encore tout un tas de choses, ça sera prêt durant l'année, etc., etc. Donc la frénésie nous met dans une attente incroyable vis-à-vis de la tech, mais aujourd'hui il faut essayer de reprendre un petit peu de hauteur et dire à quoi ça sert tout ça. Est-ce que ça sert nos concitoyens? Est-ce qu'on n'est pas dans une stratosphère de tech, dans une bulle? On est en droit de se poser ces questions.
Oui, c'est vrai.
Je pense.
Mais la bulle de l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de complètement surréaliste. Hein. Aujourd'hui, on vit une espèce d'explosion de solutions. Beaucoup vont mourir, d'autres vont perdurer, d'autres vont évoluer. Tu parlais de ce Human Pin. Voilà, ils essaient d'être rachetés parce que effectivement ça n'a pas marché, mais peut-être qu'on va garder certaines idées de ce produit-là qui va être après développé par un Apple ou par un Google, on ne sait pas, hein, Fred, finalement.
Oui, exactement. Alors je crois que
ça fait partie de la vie de la tech, finalement. Et heureusement que c'est comme ça.
Et ici, dans ce salon VivaTech, c'est 40% à peu près des innovations présentées qui tirent parti de l'IA. Alors l'IA générative, ouais. Etc. Donc on voit aujourd'hui, oui, c'est ce qui fait vivre, hein, c'est l'IA. Et d'ailleurs, les grands, parce que je pense que tu vas y venir, mais les grandes annonces d'Emmanuel Macron autour de tout ça, les grandes annonces des grandes entreprises présentes ici, c'est autour de l'IA.
Alors, si tu n'as pas IA dans ton entreprise, dans ton pitch deck,
t'es mort.
Et maintenant, si tu n'as pas IA dans ton discours en tant que politicien, qui a perdu l'affaire.
C'est clair.
Il y a un problème.
Ouais. Donc, alors que l'IA, certes, est révolutionnaire, mais elle ne doit pas être partout.
Enfin, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut faire attention de ne pas courir un lièvre. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de nos entreprises, PME, ETI, qui ne sont pas encore correctement digitalisées, qui ont des data qui sont complètement en vrac. Et aujourd'hui, si on leur dit, on va les mettre du copilote plus partout, Microsoft va arriver, va acculturer tout le monde, d'un coup de baguette magique, votre entreprise va se transformer. Ça a été faux pour la transformation digitale, ça va être faux pour l'IA. Donc arrêtons de refaire systématiquement les mêmes erreurs. Il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de FOMO, beaucoup de.
Et puis il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer un copilote.
Mais tout à fait.
Quand on sait que c'est 30 euros la licence, enfin,
mais tout à fait. Bon,
voilà, donc ça va être des grosses boîtes ou alors peut-être certaines catégories
même
personnelles.
Les grandes entreprises, hein,
bien sûr.
Et puis il faut vouloir avoir son écran qui est enregistré toutes les 20 secondes avec la nouvelle version de Windows,
ouais.
Ce qui pose quand même des questions.
Tout à fait.
Même si c'est fait en local.
De vie privée, etc.
Il y a quand même des questions sérieuses. Hein.
Ouais, c'est Elon Musk d'ailleurs qui a réagi là-dessus. Sur cette fonctionnalité de copilote plus.
Non, mais c'est révoltant.
Qui fait une espèce de qui enregistre.
Ils font un screenshot, une copie d'écran, voilà, toutes les 20 secondes.
Comme un magnéto, tout ce que tu es en train de faire et tu peux rembobiner, en quelque sorte.
Ah oui.
Et Elon Musk a gueulé là-dessus en disant mais c'est pas possible.
Non, c'est.
Où est-ce qu'on va, quoi, ce truc-là?
C'est dystopique.
On revient aux annonces d'Emmanuel Macron qu'on a commenté hier avec la secrétaire d'État chargée du numérique qui était sur notre plateau, Marina Ferrari. On en a parlé, mais évidemment, on va y revenir parce que. Tu as quelques informations intéressantes à nous raconter sur les dessous en fait, de ce rendez-vous. C'était à l'Elysée, bien évidemment, avant l'allocution d'Emmanuel Macron, qui visiblement était très brillant.
Oui. Il y a eu un contraste en fait entre les.
Et puis en plus, c'est un sujet qui lui tient à cœur, ça se voit. Donc oui. Voilà.
Il y a eu un contraste. Alors ce que m'ont dit plusieurs personnes, c'est pas une seule personne, plusieurs personnes m'ont dit il y a vraiment eu un contraste entre les tables rondes où il y avait de grands noms, mais qui restaient très polissés, même un peu ennuyeux, il faut bien le dire, à l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a été, voilà. Là, la lumière un peu de ce rendez-vous et qui a vraiment donné le ton et tous les alors là pour le coup tous les professionnels se disent s'il agit de la façon dont il parle là on y va et à fond. Il a annoncé évidemment sur la formation, il s'est beaucoup appuyé sur le rapport interministériel Philippe Aguillon et Anne Bouvra qu'on avait reçu, ici
sur
même sur ce plateau, donc il s'est beaucoup appuyé là-dessus, donc il a beaucoup parlé formation et puis surtout il s'est engagé. On parle d'un pays, il faut qu'on en soit plus actif au niveau des semi-conducteurs, mais il a dit moi je vais aller voir des fabricants taïwanais. Et puis
je t'arrête là-dessus. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est prêt à aller à Taïwan pour rencontrer les patrons de TSMC,
c'est sur la route de la Nouvelle-Calédonie, hein, d'un autre côté.
Cela dit, peut-être qu'au retour, il pourra. Enfin, en ce moment, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter là-bas. Mais donc, il pourrait aller là-bas, essayer de convaincre tous ces industriels,
les faire venir,
délocaliser leur industrie en France.
Alors, je ne sais pas s'ils délocaliseront leur industrie en France, parce que après, je pense qu'on aura des gros soucis. Implanter une usine. C'est plusieurs dizaines de milliards.
Oui, mais enfin, pour TSMC, finalement.
Oui, mais faut trouver l'environnement. Quand on voit les difficultés qu'ont eu Microsoft à trouver un endroit pour poser leur data center, ils ont été obligés d'aller en Moselle, dans l'est de la France. Voilà. Je ne suis pas sûr que les grandes régions françaises soient prêtes à accueillir.
Ils ont été obligés. C'est bien la Moselle aussi. Pourquoi pas.
Non, mais le truc, c'est qu'ils ont eu des refus de plusieurs régions en disant non, pas chez nous. Donc là, ils ont trouvé cette
région. Mais alors, je ne sais pas si tu as suivi, parce qu'on en parlait hier, justement, Emmanuel Macron aimerait revenir là-dessus pour faciliter le foncier, alléger la réglementation.
Voilà.
Et en fait, libérer la route.
C'est un peu
pour
tout
que,
ça.
En fait, tous ces patrons, enfin toutes ces industries puissent facilement s'implanter en France.
C'est un peu tout
France.
Ça.
C'est aller
voir ces patrons, certes, mais c'est surtout les éclairer sur toutes les mesures fiscales. Alors c'est peut-être les aider fiscalement aussi.
Il y aura des aides, évidemment.
On a notre crédit impôt recherche qui marche bien. On a les enfin voilà, c'est leur montrer tous les atouts de la France, alléger vraiment toute cette partie administrative, parce que là il en est tout à fait conscient. Donc c'est là-dessus qu'il va jouer. Petite chose aussi sur la tension Emmanuel Macron, Thierry Breton autour de l'IA Act. Ça c'est quelque chose qu'ils ont tous noté. À un moment, Emmanuel Macron dit bon, puis la réglementation c'est bien, mais il ne faut pas qu'on se l'applique qu'à nous, il faut que ce soit au niveau mondial. Donc là, je vais monter ce qui a été dit il y a, que c'était bien, mais bon, il faut aller au niveau OCDE. Là, c'était un revers pour Thierry Breton, qui d'ailleurs, à la fin du discours d'Emmanuel Macron, il s'est levé de sa chaise, il est parti tout de suite. Donc vexé de se dire bon, ben, on y a acte. Emmanuel Macron, en gros, il le met sur le côté du bureau et on va aller voir l'OCDE. Donc là, c'est un peu bon. Voilà
l'envie. Un tirage de... en anglais, on dit ça pull rug. C'est un tirage de tapis.
Voilà, exactement.
Alors bon, au-delà de la Titanic qui est quand même assez évocatrice des tensions, hein, tu trouves pas, enfin, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un double discours, à la fois évidemment la France toute seule, on n'y arrivera pas, il faut voir ça au niveau européen, mais malgré tout, il y a des luttes intestines justement pour le pouvoir en Europe et pour qu'il y ait une espèce de, comment dirais-je, de
harmonisation. Ouais.
D'harmonisation.
Lui, il veut faire un axe franco-allemand, mais bon, compliqué.
Oui, mais les Allemands n'ont pas réagi, tu vois, encore une fois.
Oui, non. Puis
si
les
tu fais un axe franco-allemand, il faut que l'Allemagne donne son avis et que, après, ça puisse faire boule de neige pour que d'autres pays puissent s'accrocher.
Tu sais, sur d'autres sujets, il y est allé un peu en portant un peu la voix française qui espérait faire bouger en Europe. Ça n'a pas bougé. Hein. Je pense aux événements qui se passent en Ukraine. Et là, bah, les Allemands, ils ont leur Mistral, ils ont Aleph Alpha, donc ils vont dire attendez.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait en fusion ? Enfin voilà, ils se posent même pas la question, ils n'ont pas répondu. Donc c'est un peu ça.
Il y a un vrai enjeu et récupération politique de la tech aujourd'hui qui est très importante. Ça a commencé avec la Startup Nation, la French Tech, etc. Aujourd'hui, la French Tech est un peu en panne. Les investissements, les levées de fonds sont de plus en plus difficiles, il faut le rappeler. Et donc finalement, bah, l'IA vient comme une cure de vitamine politique, aider le gouvernement et Emmanuel Macron dans redorer une image. Il faut rappeler quand même que de l'autre côté, il y a un énorme écart qui se passe entre la tech qu'on voit ici, qui est flamboyante, qui est avec du panache, etc. Mais la vraie économie derrière, en France, elle n'est pas si rose que ça, en fait.
Non, c'est sûr.
Ni pour les entreprises aussi. Ce qui fait que derrière, quand on parle d'IA, etc., aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont un peu en retrait par rapport à leur investissement en innovation, ben parce qu'en fait, il faut financer la prod. Il faut financer, ramener du cash et la croissance. Et aujourd'hui, c'est relativement difficile. Donc, la meilleure façon politiquement pour réussir, c'est la méthode Coué. C'est « je vais bien, tout va bien, avec l'IA, on va s'en sortir ».
Moi, je pense que ce qui nous manque, on dit beaucoup aujourd'hui, il faut simplifier les démarches publiques. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on nous dit en même temps qu'il faut réduire notre budget global de dépenses publiques. Je pense qu'il y a un gros rôle à jouer au niveau des gros contrats signés avec l'armée, signés avec l'administration. Et c'est là où il faut vraiment davantage insister sur tout ce qui est technologie. Voilà, il faut la Silicon Valley s'est montée parce qu'il y a les programmes de la NASA, parce qu'il y a les programmes de l'armée américaine. Ça a été la même chose en Corée du Sud, ça a été la même chose en Chine, sous notre version. Mais je pense que là, on a vraiment un effort à fournir. Moi, si l'armée disait, écoutez, nous, on a besoin d'IA, on va pousser et on va pousser.
Mais il faudra vraiment que cet
effort énormément soit d'argent. Mais voilà, alors après, est-ce que c'est accepté au niveau politique,
Frédéric,
c'est une autre histoire. Mais pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui.
Mais il faudra que cet effort il soit véridique et authentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même l'État et les gros donneurs d'ordre passent encore majoritairement par des très grosses entreprises. Il faut aussi déréguler un petit peu tout ça.
Mais sur l'IA. Hein,
les fiefs, etc. Mais même sur l'IA, c'est les très grands noms, etc. Qui ont les très gros contrats. Donc aujourd'hui, dire que les gros acheteurs de l'État doivent passer plus par les petites entreprises, par nos start-up, parce qu'en fait, elles ont besoin de ces commandes-là. Elles ont besoin d'avancer là-dedans.
J'aimerais qu'on avance et qu'on évoque OpenAI qui, en sous-main, est en train de recruter en France.
Oui. Hein,
de manière intéressante. Allez, amusez-vous, allez voir sur LinkedIn, vous verrez. Il y a pas mal de profils qui sont recherchés par OpenAI. C'est assez récent. Et d'ailleurs, ici, pas mal de speakers français salariés d'OpenAI se sont exprimés.
D'ailleurs, on salue Romain Huette, d'ailleurs.
Je l'ai pas eu, figure-toi. Il nous a aidé au dernier moment.
Peut-être qu'il va passer dans le coin.
Ouais, mais alors justement, on est pas très content parce que il était calé dans, pour tout vous dire, il était calé dans Tech & Co. On était très heureux d'avoir un porte-parole.
C'est des stars maintenant dans l'IA.
OpenAI. Et puis d'un coup, plus de news. En fait, OpenAI nous a snobé. Et franchement, c'est rare que ça nous arrive. Franchement, c'est rare que ça nous arrive. Donc on était un peu.
Rattrape-toi au moins ta flint.
Un petit peu énervé.
Oui, pardon, on aura d'autres invités justement. Il y a Julie Vallée qui est une ancienne du cabinet de Arkel, qui est dans les arcanes politiques de l'administration française. Elle a été recrutée par OpenAI. Quoi, un rôle de lobbyiste. Son rôle va être d'aller voir
on
les gouvernements.
On sent que voilà, il y a OpenAI passe à la vitesse supérieure, à on va dire une taille critique maintenant, qui fait qu'ils sont obligés de jouer dans la cour des grands.
Ah, bien sûr. Et elle, par exemple, elle va s'occuper de toutes les affaires publiques. Donc, ça va être aller voir les gouvernements, les liens avec OpenAI. C'est aller voir tous les éditeurs de presse pour signer ces accords, comme signe OpenAI avec Le Monde et avec d'autres éditeurs de contenu. Voilà, ils ont besoin de ça aujourd'hui pour aller faire du lobbying, tout simplement.
C'est pas OpenAI, moi, qui m'inquiète.
Ça m'inquiète pas, c'est leur stratégie.
C'est plus Microsoft. C'est plus Microsoft
qui est derrière,
parce que la vraie machine.
On dirait la marionnette, tu sais, OpenAI, qui est pilotée par Microsoft.
Mais bien sûr, parce que même hier ou avant-hier à l'Elysée, quand on parle de former 1 million de concitoyens, quand on parle d'acculturation, etc., qui est derrière tout ça? C'est la formation, elle va servir avec quel support? La formation pour les end-users, pour nos concitoyens, ça va être beaucoup de formation par des très gros groupes,
bien sûr,
qui vont proposer
Meta, Microsoft,
et mettre devant
Google, Amazon.
Ils vont mettre devant leurs solutions, ce qui est pas mal et ce qui est normal, parce qu'en fait, de l'autre côté, ils investissent 4 milliards. Alors donc, on peut quand même accepter qu'ils forment quelques-uns de nos concitoyens pour acheter les futures machines.
Mais moi, franchement, je suis pas contre moi ces initiatives-là, malgré tout,
on peut pas le faire sinon.
J'ai compris, il y aurait un petit budget de 10 millions d'euros
Super.
Qui serait débloqué, qui ont été annoncés par Emmanuel Macron pour le Conseil national du numérique, pour justement sensibiliser les Français à l'intelligence artificielle.
Les débats publics, les conférences, les débats citoyens, etc.
Les cafés IA, je crois.
Les cafés IA. À nouveau, on l'a annoncé ce matin dans la matinale de BFM Business.
Donc c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'après... Ces géants sont obligés de sponsoriser ces formations qui représentent des centaines de milliers de parts de marché.
Mais c'est ce qu'ils font depuis un moment. Ils faisaient le Google, fait un peu le rôle des pages jaunes. Voilà, c'est d'aller voir les
sites. Et rappelle-toi, à l'époque du métavers, c'était pareil. On avait des formations métavers.
Mais Google, ça fait des années que des Google, des Amazon forment des petits commerçants autour de leurs outils.
Avec leurs outils, leurs solutions.
Et l'IA arrive, donc logique. Et on en a d'autres. Dans Tech & Co Business, je reçois la présidente d'IBM qui va former aussi 10 000, 15 000 personnes dans le grand public, à travers des formations gratuites de quelques heures.
Voilà, le vrai problème, c'est que Frédéric et François, c'est que l'open source là-dedans a du mal à trouver son modèle et sa place. Ce qui fait qu'en fait, on a aujourd'hui un gros bloc très puissant d'entreprises comme Google, Amazon, Anthropic, Microsoft, Meta, extrêmement puissantes. Mais de l'autre côté, c'est quand même très boîte noire. Et on en veut tous les événements là, qu'on voit aujourd'hui avec le clonage de voix, qui sont des vraies questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces modèles? On ne sait pas trop, ils sont fermés. Donc, il y a un vrai problème de trouver pour l'open source sa voie économique pour permettre d'avoir une contrepartie plus ouverte, plus décidable, plus observable, plus prédictible. Et peut-être que la France a quelque chose à jouer là-dedans. Voilà.
Tiens, c'est Sam Altman qui s'est pris une petite claque de la part de Scarlett Johansson, avec une voix qui est arrivée avec ChatGPT 4o.
Ça pose des questions très philosophiques.
Mais ça fait un moment que ça plane, cette histoire-là. Mais là, on se retrouve vraiment avec un cas concret. Et donc, l'une des voix de ChatGPT 4o, c'était la voix de Scarlett Johansson. Alors, OpenAI est toujours démenti, mais Scarlett Johansson a dit écoutez ma voix. Vous allez voir, c'est pareil.
En fait, le problème, c'est que quand tu compares les deux voix.
Et donc là, c'est les avocats qui discutent maintenant.
Mais quand tu compares les deux voix, elles sont foncièrement très différentes. Le seul problème, c'est qu'en fait, Sam Altman et OpenAI, depuis des mois, ont avancé et instillé dans la tête des gens, imprimé dans la tête des gens, que le film Her était inspirante et que ça allait être la voix. Et au final, au bout d'un moment, quand on fait écouter la voix dans la tête des gens, même si c'est la voix de Raymond DeVos, ça ressemble à Scarlett Johansson.
D'autant que Sam Altman, ça fait des mois qu'il court après Scarlett Johansson pour essayer de la convaincre de numériser sa voix.
Et
elle a pas voulu. Donc voilà. Il nous reste quelques instants, Fred. Tu as pu rapidement parcourir les allées de ce salon. Est-ce que tu as des coups de cœur?
Alors, mon coup de cœur, tu vas en parler certainement avec Eric Carrel. C'est ce véhicule là, présenté par Software République. Software République, c'est Renault, Dassault Systèmes, Orange, Atos. Enfin, voilà, ils sont plusieurs. Si,
mais ça a l'air d'être une vraie réussite, cette association-là.
C'est un concept pour l'instant, mais ça s'appelle You First Vision. C'est une camionnette. Alors là, avec Eric Carrel, tu vas en parler de sa structure modulaire dédiée à la e-santé. Mais ça peut très bien être une petite structure qui va être envoyée dans des villages pour l'apprentissage au numérique. Ça peut être une structure qui peut être adaptée à la réparation. On fait tous du vélo aujourd'hui, à la réparation de vélo. Donc voilà, c'est plutôt intelligent. Ils ont signé, donc ils ont la base. Et après, derrière, ils vont signer avec tout un tas, ben là, avec Eric Carrel, avec Luxottica, parce qu'on pourra faire du contrôle de vision, avec Presence Care, qui est du lien médical assisté. Et je trouve ça plutôt intelligent. Voilà le véhicule, voilà la plateforme. Maintenant, rajoutez des services dans les domaines que vous voulez.
T'as vu des trucs, toi ?
Ça reste un prototype.
Ouais, mais
oui, ça ne sera pas prêt ni cette année, ni l'année prochaine. Ça reste du concept.
Ouais, mais on me dit mon coup de cœur, moi j'aime bien.
C'est génial. Le concept est très bien. Non, j'ai pas vu de coup de cœur. J'ai pas vu de coup de cœur aujourd'hui. J'attends avec impatience le dieu vivant qui va arriver cet après-midi, Elon Musk.
Il est en remote, il est en visio,
mais
il peut pas venir chaque année aussi.
On se posera la question de savoir si c'est pas un clone finalement. Pourquoi un hologramme
de... séance de questions-réponses.
Ça sera peut-être un deepfake.
Et moi, juste parmi les petites choses que
pour terminer, alors
c'est en marge de Vivatech, mais il y a une audition au Sénat de Arthur Mensch. Et alors,
donc l'un des cofondateurs de Mistral,
Qui dit: en France, on a de bons ingénieurs, mais on n'a pas assez de marketing. Il nous manque encore des gens pour vendre. Et là, je me suis dit, flûte.
Il manque pas d'air de
parler de ça. Oui, ils sont hyper brillants, mais justement,
on a des très bons marketing et communication en France. Et d'ailleurs, on a plein qui cherchent du boulot.
Allez sur LinkedIn, Mistral.
Donc Arthur, vous trouverez. Si tu cherches des bons professionnels en com et market, on pourra t'en donner.
Voilà. Et puis Arthur, si tu veux venir sur le plateau de Tech&Co, t'es le bienvenu. C'est pas faute de t'avoir proposé de venir t'exprimer, nous présenter Mistral. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à
toi.
Voilà
le deuxième débrief de ce jour 2 de Vivatech avec Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, et Pierre Vanier de Flint. Merci à tous les deux.
Merci François, merci.
Et on poursuit avec la robotique. Vous connaissez Enchanted Tools ? Alors je sais que Fred, oui. Tu connais Enchanted Tools ou pas ?
C'est le petit robot avec sa figure un peu jaune, là, avec, qui ressemble à Astro un peu.
Tout à fait.
Pour ceux qui ont connu Astro.
Qui a rencontré Satya Nadella.
C'est pas Aldébaran bis, ça, en fait ?
Et exactement, parce que l'un des fondateurs était chez Aldébaran. Il a travaillé avec Bruno Maisonnier.
Mais en fait, la question, ça sert à quoi ?
Eh bien, tu vas le savoir dans un instant, parce que l'IA générative arrive sur ces robots.
Ah.
Et ça va tout changer.
Ça va tout changer, ouais.
Voilà. Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech. Merci d'être là, tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech. Deuxième jour ici, vous le savez, BFM Business qui a investi avec son plateau en plein cœur de ce salon. Eh bien, ce rendez-vous dédié aux technologies, et vous l'avez vu, j'ai deux invités sur le plateau de Tech & Co. Alors j'ai déjà Miroki, un super petit robot made in France, et son papa qui est là, Jérôme Monceau. Salut.
Bonjour.
Jérôme.
Salut.
Fondateur et président d'Enchanted Tools. Alors si vous êtes un fidèle de Tech & Co, vous savez qu'on adore cette boîte-là. On s'était vu au CES de Las Vegas.
Oui.
Et on se revoit ici à Vivatech parce qu'on aime bien suivre les avancées technologiques de ce petit robot. Parce que la robotique, Jérôme, on se rend compte, plus le temps passe et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, que même les géants aujourd'hui américains s'emparent de ce truc-là. Optimus avec Tesla, on voit qu'il y a énormément. Figure.ai, qui est une boîte qui a l'air assez bluffante, même Boston Dynamics. Et on a un savoir-faire, nous, ici, avec vous, donc Enchanted Tools. Juste un mot sur ce projet, enfin, qui est plus qu'un projet aujourd'hui, parce que c'est du concret. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, en fait ?
Alors là, on est en train de fabriquer deux personnages qui s'appellent Miroka et Miroki.
C'est Miroki, hein ?
Ça, c'est Miroki. Le jaune, c'est Miroki. C'est un garçon. Il y a sa sœur jumelle qui s'appelle Miroka. C'est des personnages d'animation sous la forme de robots. Et ils ont deux missions dans le quotidien. La première, c'est de déplacer automatiquement des objets. On appelle ça de la logistique sociale. Ils vont prendre des chariots, des plateaux, des paniers, tout ce qui peut rendre service dans des hôpitaux, des hôtels, des restaurants, des musées, etc. Et puis leur deuxième mission, c'est d'apporter du merveilleux au quotidien.
Le merveilleux, on le voit, c'est la sympathie, la bienveillance, l'empathie qu'il dégage, hein, parce qu'il est tout mignon, bien évidemment. Hein. C'est un mix de manga, de dessins animés, enfin voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce projet, vous l'avez construit depuis 2021. C'est quoi les dernières avancées technologiques ? C'est quoi les progrès que vous avez pu réaliser ces derniers temps ?
Alors déjà, oui, effectivement, en 2021, on lance le projet. C'était fin 2021. On a mis 12 mois à monter le proto, mais parce qu'on sait faire. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la robotique. Oui. Vous savez qu'en France, il y a eu Aldébaran. Il y a des gens, des experts qui savent vraiment bien faire ce genre de machine.
Vous étiez chez Aldébaran avant.
Hein. J'étais chez Aldébaran, bien sûr. Et puis, une bonne partie de l'équipe aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu aller aussi vite. Et là, aujourd'hui, on est rentré dans la phase industrielle. Ça veut dire qu'on est en train de commencer à produire des robots à l'échelle. Alors, cette année, c'est un peu petit nombre, on fait une trentaine, mais l'année prochaine on fait 500 robots. Donc là on commence à monter des usines, des pilot lines, on met en place tout le processus de qualité et tout, toutes les dernières technos qui nous manquent pour réussir à amener ça sur le marché à une échelle globale.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ce robot a des bras, des mains. Il n'a pas de jambes en fait, et c'est, je trouve que c'est toute l'originalité. Il se déplace avec une boule qui est en dessous de lui.
Oui, il est en équilibre en permanence, c'est ce qu'on appelle un pendule inverse, et il y a des raisons très pragmatiques derrière ça. Par exemple, un bipède, donc deux jambes, on en voit de plus en plus aujourd'hui, notamment du côté américain, et ça demande énormément de moteurs, peut-être une dizaine, voire une quinzaine, voire plus encore sur certains. Et quand vous savez que le prix, que le poids du robot et que les risques de panne viennent principalement des moteurs, vous comprenez bien qu'il faut les limiter. Ici, on a seulement trois moteurs pour faire un pendule inverse. C'est hyper économe et l'avantage, c'est que ça consomme presque pas. On pourrait dire, oui, mais comme il est là en train de s'équilibrer en permanence, en fait, il consomme. Mais non, parce que comme il est équilibré quasiment tout le temps, il n'a pas besoin de force pour se contrôler. Son dispositif de navigation prend moins d'énergie que son visage ou que son CPU, par exemple.
Et donc là, ce sont les capteurs, par exemple, j'imagine un gyroscope qui va en temps réel analyser pour qu'il reste debout.
C'est ça.
Garde l'équilibre.
C'est des technologies qui sont maintenant bien maîtrisées, qui tournent en temps réel. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que le robot il sent un tout petit déséquilibre, comme vous avec votre oreille interne, eh bien, il vient compenser en déplaçant la boule dans un sens ou dans l'autre. Et ça lui donne une énorme stabilité, bien plus grande que tout ce qu'on avait pu espérer.
Jérôme, est-ce que ce robot déjà s'amuse dans de vrais environnements ? Est-ce que il est commercialisé ? Est-ce que vous êtes toujours en phase de test ? Et s'il y a des tests, dans quel environnement ?
Oui, alors cette année, on vend une vingtaine de robots. Là, c'est parti, on va livrer nos premiers.
Qui sont vos clients ?
Alors, on a plusieurs types de clients. On a déjà des chercheurs dans des laboratoires. Par exemple, on a l'ISIR en France, qui est le plus gros laboratoire de robotique français. Et puis, on en a au Japon, on en a aux États-Unis, on en a un petit peu partout, des chercheurs. On a également des distributeurs, parce que nous, on se prépare à vendre quand même massivement. Mmh. Donc, on a besoin de faire gagner des gens. On va faire gagner des distributeurs un peu partout dans le monde de la même manière. Et puis, on a aussi des end-users. Là, on va vendre un cabinet d'orthodontie aux États-Unis. Ils sont fans de robots depuis le début. Ils en ont déjà déployé et ils inventent une nouvelle façon d'accueillir les gens, de leur rendre service. Et donc, nous, on explore ça avec eux dans le but de vendre à d'autres derrière.
Mais typiquement, on prend l'exemple du cabinet d'orthodontie. C'est très intéressant. Ce robot sera là pour quoi ? Pour accueillir les patients, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il va faire ?
Oui, alors... il y a certains qui l'utilisent pour accueillir, pour divertir, pour rendre service aussi, apporter une bouteille d'eau ou voilà, plein d'usages comme ça pour l'accueil.
D'accord.
On a également la même chose du côté patient, et donc patient dans le cas de l'hôpital, où on va pouvoir être à leur service, leur apporter des objets, les divertir, etc. Mais on a aussi, et surtout peut-être, le staff, c'est-à-dire les aides-soignants, par exemple, dans le cas de l'hôpital, ou le staff d'un hôtel, comment on peut se mettre à leur service et comment on peut les aider à faire leur métier. J'ai coutume de dire qu'on veut leur apporter des pouvoirs magiques.
Ce qui est incroyable, c'est déjà le pouvoir magique de ce robot. Derrière nous, il y a énormément de monde qui est venu et qui est happé par ce robot. J'imagine que vous voyez ça au quotidien. Peut-être que vous vous en rendez même plus compte, mais c'est dingue. Là, il y a plein de gens qui regardent comment il évolue. Alors, ils écoutent ce qu'on dit parce que j'espère que c'est intéressant. Mais voilà, il y a une attirance envers ce type de technologie.
Alors, très clairement, surtout que là...
On arrive à l'expliquer, ça, ou pas ?
Pardon ?
On arrive à expliquer cette attirance envers ce type d'appareil ?
Je ne sais pas si c'est une bonne explication, mais les robots, ils ont toujours été faits de la même manière. Quand on les regarde, quand on les voit à la télé, ce qu'on voit, c'est des espèces d'appareils militaires. Ils projettent un futur qui est un peu dystopique, selon moi. Mmh. Et ce qu'on a voulu faire avec Uncharted Tool, c'est bousculer ça. Dire, non, la robotique, c'est pas forcément ennuyant ou militarisé ou je ne sais quoi. Ça peut être là aussi simplement pour nous accompagner et pour nous aider à définir une société où l'intelligence artificielle peut partager notre quotidien dans une logique de fun, dans une logique d'utilité, mais aussi avec de profondes valeurs éthiques.
Alors, évidemment, l'intelligence artificielle générative est en train de bouleverser énormément de secteurs. Est-ce que ça bouleverse vos plans, Jérôme, aujourd'hui ? Est-ce qu'en 2021, vous imaginiez qu'un ChatGPT 4o allait arriver, créer une interaction incroyable avec des humains ? Et est-ce que tout ça, toute cette technologie, alors je parle d'OpenAI, mais évidemment des large language models, il y en a beaucoup d'autres, est-ce que tout ça va transporter ces robots dans une nouvelle ère, à votre avis?
Alors, oui, ça bouleverse nos plans, mais ça les a bouleversés il y a 10 ans. C'est-à-dire au moment où on sort Pepper avec Aldebaran, SoftBank, etc., on a des outils d'intelligence artificielle qui fonctionnent coup-ci, coup-ça. C'est pas terrible, quoi. Et on comprend ce qu'il faut. On comprend comment ça doit fonctionner à l'intérieur du robot. Et c'est là où on commence à édifier les plans de ce robot-là. Et là, en voyant justement les arrivées de GPT, hein, GPT, c'est pas 2021, c'est un peu avant. Mm-hmm. Y a tous ces gros algos, on commence à voir des résultats 2018, 2019. Donc on se rend compte qu'il y a un mouvement qui va arriver, qui va être très important. Et en fait, la robotique humanoïde accélère énormément grâce notamment au progrès en intelligence artificielle. Avant, c'était comme le smartphone, il fallait coder une application pour avoir un résultat. Maintenant, on est capable, grâce aux IA, de générer automatiquement le comportement du robot. Et ça change complètement le paradigme de la robotique humanoïde.
Jérôme, quand on voit la démo de Figure.ai, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo,
évidemment,
qui est incroyable. Il y a d'autres exemples comme ça. Il y a plein de startups aux États-Unis qui font des trucs de dingue. Un, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est bidon ou pas? Parce que c'est votre métier. Nous, on est bluffés, mais voilà, votre regard de professionnel. Ouais. Et deux, est-ce que demain, Miroki fera tout ça?
Alors, je trouve que ces grands humanoïdes, ils sont énormément dans la promesse. On l'a été aussi, hein, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on était dans une promesse un peu illimitée. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire. Moi, je suis revenu un peu de ça. Ce que je sais, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir tout faire. Prendre une feuille de papier, prendre un câble, prendre un truc attaché, ça reste toujours extrêmement compliqué. Que ce soit pour les mains qui vont coûter extrêmement cher, le contrôle, les risques de panne, tout ça. La réalité industrielle derrière, elle va être cruelle. Mais il y a plus que ça. C'est l'usage. C'est-à-dire comment moi, qui bosse dans un hôtel, dans un musée, machin, comment je sais ce que le robot il peut faire ou pas faire? Et ça, vraiment, ils ne l'expliquent pas. Ils ne prennent pas du tout en compte l'utilisateur. Donc, je crois que le futur, il est... Et ça va être incroyable ce qu'on va faire avec les IA, mais c'est pas tout à fait ce genre de choses où là on est encore dans des expérimentations de laboratoire, selon moi.
Figure.ai, c'est bidon ou pas?
Oh bah, je vais pas dire ça, les robots ils sont super, la méca elle est super.
Non, mais rappelons ce qu'on a vu, enfin je pense que vous avez vu la même vidéo que moi, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui parle à Figure.ai qui lui dit qu'est-ce que tu as devant la table, et il arrive à analyser qu'il a des petites boules de papier, une poubelle,
et ça, c'est excellent,
un égouttoir et une assiette, et en fait il va comprendre le contexte de chaque objet.
Exactement.
Et la personne va lui dire range-moi cette table, il va prendre les boulettes de papier, va les mettre dans la corbeille, etc.
Oui,
ça c'est l'IA générative, on
c'est
est d'accord.
C'est l'IA générative, mais et ça montre
arrive,
bien
il faut que ça arrive
et,
dans ce type de choses.
On a ça déjà aujourd'hui. En fait, ce que fait le robot, c'est qu'il comprend un certain nombre de symboles dans son environnement et il sait comment les associer. C'est du sens commun. C'est là où les IA sont fortes. Et ça, on a déjà ça aujourd'hui dans le robot. Là où, dans Figure, donc ça ouvre ça quand même, hein, c'est respect. Hein. Il les exprime joliment, ils illustrent ce que va pouvoir faire le genre d'IA. Par contre, la manière dont ça va s'exprimer vraiment dans le business, en interaction avec les utilisateurs, ça ne sera pas comme ça. On n'aura pas un robot à 150 000 euros ou 500 000 euros qui va remplir le lave-vaisselle.
Non, ça c'est que ça coûterait cher quand même. Miroki va parler un jour.
Il parle déjà.
Et il parle déjà.
Ah, il est connecté à ChatGPT.
J'entends faire des petits roudoudous, des petits trucs comme ça, mais après on pourra avoir un vrai dialogue avec lui.
Ouais, dans la mesure où alors vrai dialogue, c'est toujours compliqué parce que l'IA de manière générale, il y a une certaine mémoire, hein. Tu sais, Gemini de Google là, c'est 11 millions de tokens, c'est beaucoup moins sur ChatGPT, et ça détermine une mémoire.
La profondeur en fait de la
donc,
connaissance.
Donc qu'est-ce qu'il se souvient de toi, ce que vous avez fait il y a 3 mois, il y a 6 mois. Tout ça va être des choses qui sont un peu compliquées, et je crois que les architectures sont aussi en train de se trouver aujourd'hui, notamment sur la dimension données personnelles, comment tout ça fonctionne avec nos règles en Europe qui sont bien, comment on va s'approprier ça, comment on va travailler la mémoire du robot, est-ce qu'il a le droit d'oublier ou pas, enfin tu vois, ça va être des questions intéressantes.
Est-ce que le robot va combattre la solitude? On voit qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui sont seuls, surtout les personnes âgées qui se retrouvent dans des situations parfois un peu complexes. Est-ce que ça peut être l'une des réponses, justement, la solitude, ces robots, dans quelques années?
Alors, J'en suis convaincu, vraiment. Hein. On va dans des maisons de retraite très régulièrement, on rencontre le personnel des maisons de retraite et qui sont face à des problèmes compliqués, vous savez, les problèmes de non seulement de recrutement, mais en plus d'argent, quoi, globalement.
Et l'empathie, et l'écoute.
Et surtout, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, les personnes âgées, souvent, ce qu'on voit, en tout cas, j'ai vu le cas d'une dame qui a des angoisses nocturnes. Le soir, elle a peur. Elle a peur longtemps et ça dure plusieurs heures.
Bien sûr.
Et il n'y a pas quelqu'un qui peut rester en permanence. Ce n'est pas la réalité de ce genre de lieu.
Et type d'objet pourrait pallier à ça ?
Je pense, oui. Je pense.
À quel horizon, à votre avis ?
Je pense, alors personnellement, moi je connais mon plan, je sais comment je fonctionne. En 2027 par exemple, on aura 4000 robots sur la planète, donc ça reste raisonnable à l'échelle de ce qu'on pourrait imaginer. Et je pense que c'est plutôt aux environs de 2029 selon moi où on pourrait voir la robotique arriver dans le domaine du personnel. En tout cas, on va travailler dans ce sens-là.
C'est génial, merci beaucoup Jérôme. Avec plaisir. D'avoir pris le temps pour nous expliquer un petit peu la stratégie d'Enchanted Tools. Et on a envie de faire un hug à Miroki, il est tellement mignon, hein. Voilà. Merci Miro qui est venu sur le plateau de Tech & Co. Trop cool. Autre personnalité que je reçois dans un instant, c'est Eric Carrel, le patron de WeSings, que vous connaissez peut-être. Il sera sur le plateau de Tech & Co ici à Viviatech. Il a évidemment beaucoup de choses à nous raconter. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà, cette huitième édition de Viviatech est à suivre, bien évidemment, sur BFM Business, dans Tech & Co, la quotidienne. Et notre invité qui est là sur le plateau, eh bien c'est Eric Carrel. Bonsoir Eric.
Bonsoir, bonjour François.
Patron et fondateur de WeSings, vous le savez, cette pépite de e-santé hein, qui, depuis de nombreuses années maintenant, eh bien, fabrique des petits objets qui sont là pour monitorer notre santé et pour prévenir, évidemment, les maladies chroniques. C'est un petit peu aujourd'hui le sens hein, de WeSings. Eric, on est d'accord ?
C'est tout à fait ça. Il y a une explosion des maladies chroniques et cette explosion des maladies chroniques ne peut être gérée qu'à la maison. Et donc comment on rejoint et on crée ce lien entre ce qui se passe dans notre vie réelle et le corps médical, c'est la mission de WeThings.
Et évidemment, cette approche est très vertueuse parce que plus on arrive à prévenir tôt des maladies, moins on en souffre, plus on va moins solliciter les urgences et les hôpitaux parce qu'on pourra évidemment se préparer à cette maladie. Enfin, je veux dire, tout ça est très vertueux.
Alors, c'est vertueux à deux titres. C'est vertueux, effectivement, pour, comme ce que vous dites, sur l'économie du système de santé, mais c'est vertueux aussi pour la personne en elle-même. Bien sûr, on va détecter les choses plus tôt, mais on va l'aider à avoir un rythme de vie qui soit plus sain. Et ce travail sur la motivation ne peut se faire qu'en rejoignant la personne de façon quotidienne. Et pour ça, on améliore que ce qu'on mesure et donc voilà, on vient mesurer dans notre vie quotidienne.
Et alors vous mesurez plein de choses hein, avec votre pèse personne. Alors ça va bien au-delà du poids hein. Enfin,
bien sûr.
Aujourd'hui ouais. Les pèse personne WeSings, c'est des petits laboratoires médicaux finalement hein.
Exactement, on a une dizaine de biomarqueurs qu'on arrive à mesurer à travers juste le fait de monter sur un pèse personne.
C'est incroyable.
Qui vont de la rigidité des artères, un électrocardiogramme à l'état de santé de notre système nerveux sympathique, c'est-à-dire en fait quelque chose qui affecte les diabétiques, des phénomènes de décompensation cardiaque. Enfin, donc il y a une large gamme de mesures qu'on arrive à accéder simplement par ce geste très simple. On a aussi des appareils qui mesurent le sommeil, qui se mettent sous le matelas, qui sont aussi des capteurs passifs assez passionnants parce que sans effort, on a beaucoup d'informations qui est très utile. Et qui nous permet d'inventer une nouvelle médecine. Cette nouvelle médecine, c'est pas la médecine de je fais un spot pour avoir une mesure très 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 profonde. C'est je suis l'évolution au long cours. Et cette évolution au long cours, avec l'AI, enfin l'intelligence artificielle, nous permet de construire des scores qui va inventer cette médecine de demain.
Voilà. Donc capteurs qu'on place sous les matelas, les montres, bien évidemment.
Oui, alors les montres, bien sûr.
Très important. Électrocardiogramme. Enfin voilà, énormément de données que vous arrivez à analyser en fait, hein, grâce à vos algorithmes. Et puis deux produits que vous nous présentez aujourd'hui. Alors un que vous avez annoncé au CES. Enfin d'ailleurs les deux, vous les avez annoncés au CES.
Donc là c'est le BIMO. Qui est un produit qui permet de mesurer la température, donc ça sera notre thermomètre de demain, mais il inclut beaucoup d'autres mesures qui sont l'électrocardiogramme, la saturation en oxygène et aussi un stéthoscope. Vous savez qu'aujourd'hui le problème des télévisites, c'est cette difficulté d'avoir l'équivalent d'une présence physique du médecin. Mm-hmm. Et donc là, je peux partager un enregistrement de mon stéthoscope en temps réel avec mon médecin pour écouter mes poumons, mon cœur, etc. Et ça rend la télévisite beaucoup plus importante. Et c'est notamment important dans le cadre de ce qu'on présente aujourd'hui ici avec Software Republic, justement pour rejoindre les personnes en vie réelle.
On va en parler dans un instant de cette association avec Renault et de Software Republic qui est très intéressante. Autre produit qui est... Alors, il y a aussi, vous avez des mesures de tension, hein, la tension artérielle, ouais, évidemment, ouais, qui est un peu plus traditionnelle, on va dire. Et puis cet appareil qui est étonnant, capteur d'urine.
Appareil est un capteur d'urine. Alors, il se place, il s'accroche dans les toilettes et automatiquement, il va aller prendre un échantillon au bon moment, les bons jours, en fonction de la maladie de la personne. Et à l'intérieur, il y a une cartouche qui va durer 3 mois et qui va faire des mesures très spécifiques. Et donc, on rend l'analyse d'urine, qui est une analyse très importante aujourd'hui, aussi simple que d'aller aux toilettes et sans demander de gestes particuliers à la personne.
Et là encore, c'est toujours la même histoire, hein, c'est qu'on ne se rend pas compte, on n'a pas de gestes ou de cérémonial, enfin d'action à faire pour monitorer notre santé. Tout se fait de manière transparente, c'est ça ?
Faut bien comprendre que dans cette révolution de la santé qui doit rejoindre nos vies réelles, il y a un obstacle majeur, c'est nous. C'est-à-dire nous, on est fondamentalement fainéants, on ne fait pas d'efforts. Et donc si on n'arrive pas à rejoindre très simplement nos gestes, monter sur un pèse-personne en sortant de la douche, dormir sur son lit, porter une montre, eh bien à ce moment-là, on n'arrive pas à créer ce lien dans la durée sur notre santé. Et c'est devenu essentiel. Et c'est pour ça que la principale force de WeThings, cette capacité à aller chercher des mesures pendant des années, à part des gestes extrêmement simples.
Est-ce que demain, on pourrait imaginer avoir encore moins d'interactions avec de l'électronique pour monitorer notre santé ? Des capteurs dans la maison, des caméras, des choses comme ça. Est-ce que c'est un fantasme total de la science-fiction ?
Non, il y a des choses qui avancent.
Parce que ça serait l'idéal, on est d'accord.
Alors, on n'arrivera pas à tout mesurer comme ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir des objets physiques, par exemple au poignet. Oui. C'est important de pouvoir monter sur quelque chose parce qu'à travers les pieds, on mesure énormément de choses. C'est important d'être en lien avec le matelas. Il y a des choses, par exemple, qui mesurent le sommeil sans être sous le matelas, par exemple, des appareils qu'on met sur la table de nuit.
Bien sûr. Mais en fait, ils sont très complexes. Applications sur les smartphones. Hein.
Mais en fait, oui, mais ça ne fonctionne pas très bien parce qu'il faut faire attention à la façon dont on les place, etc. Et en fait, ça reste trop compliqué. Quelque chose qu'on place sous le matelas, il est là, il reste des années.
Oui, c'est ça. Alors, parlez-nous de cette association, on va dire, française, puisque vous faites partie de ce projet avec Renault et de Software Republic, où dans un van, vous allez apporter en fait tout votre savoir-faire en matière de e-santé, c'est ça ?
Exactement. En fait, dans cette révolution de la santé dont on parlait tout à l'heure, il y a deux points. Un, c'est bien sûr ce qui se passe en vie réelle, mais d'abord, il faut aussi rejoindre les personnes. Il y a énormément de personnes qui ne vont jamais voir un médecin avant d'être très malade. Donc comment on stratifie cette population, comment on la rejoint, c'est là où cette initiative de Software Republic est très intéressante. Donc Software Republic, hein, c'est une association, il faut le rappeler, dans laquelle il y a Renault, il y a Orange, il y a Dassault Systèmes, il y a JC Deco, il y a ST Microelectronics, il y a Atos, il y a un certain nombre de très grandes sociétés et qui s'associent avec des sociétés plus petites pour faire des projets très concrets. C'est une initiative d'Open Innovation. Et donc là, il est présenté un nouveau concept de voiture qui peut aller se déplacer un peu dans n'importe quel village ou dans n'importe quelle place de ville.
Voiture électrique, bien sûr.
Voiture électrique, bien sûr.
Forcément.
Déposer un espèce de cabine de santé qui va pouvoir faire des tests assez profonds. Il y a aussi un désir d'humaniser tout ça, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un personnel de santé à l'intérieur du véhicule qui ne sera pas forcément un médecin, qui ne sera pas forcément un spécialiste, mais qui va pouvoir, à travers la visioconférence, toucher un spécialiste et avec la présence d'un infirmier ou d'une infirmière sur place, apporter un diagnostic qui soit très précis.
Donc ça serait une cabine de santé ambulante finalement.
C'est une cabine de santé ambulante qui va pouvoir être très technologique, hein, puisque donc à l'intérieur il y a bien sûr nos appareils, il y a aussi d'autres appareils qui peuvent être faits par Thales, qui peuvent être faits par.
On pourrait aller jusqu'où radio.
Aller jusqu'au radio, il va y avoir des essais par exemple pour faire de l'analyse de nos yeux. Mm-hmm. Avec un orthoptiste sur place, pouvoir définir quelles sont les lunettes dont on doit porter. Il y aura des systèmes d'analyse d'urine. Enfin, donc il y a tout un panel qui va être très important de check-up de santé.
Alors c'est pour pas pour tout de suite. Hein, là, vous avez présenté le concept. Ça pourrait sortir quand
ça va aller très vite. Hein. Dès l'année prochaine, il y aura. Donc là, les carnets de commandes sont ouverts. Mm-hmm. Donc l'idée, c'est de commencer à placer dès l'année prochaine ces cabines. Il y a aussi Dassault Systèmes qui a fait tout un système de simulation des besoins en fonction des présences des docteurs, etc. pour rejoindre les déserts médicaux, puisque en fait, il faut se souvenir qu'en France, on a un vrai problème de déserts médicaux.
D'où l'intérêt en fait de ce type de
d'invention. Et c'est pareil dans beaucoup de pays. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir aussi s'exporter à l'international.
Dernière question, Eric Carrel. Ce salon VivaTech est piloté par l'intelligence artificielle. Tout le monde parle de ça. Alors ça doit vous faire doucement rigoler parce que ça fait des années évidemment que vous manipulez les algorithmes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'intelligence artificielle générative. Est-ce que vous voyez l'arrivée de cette technologie dans le monde de la santé, par exemple chez vous, et comment ?
Alors, c'est effectivement une vraie révolution. Moi, je suis un vieil ingénieur, ça fait 35 ans que je bosse, donc j'ai vu arriver Google, j'ai vu arriver les smartphones, et je considère que c'est la plus grosse révolution que j'ai vu arriver.
Pourquoi ? C'est intéressant. Parce que... c'est intéressant que vous disiez ça. Parce que vous avez vu en fait toutes ces toutes ces révolutions d'innovation
qui ont été fantastiques. Hein, c'est-à-dire,
mais pour vous, l'IA générative, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant.
C'est ce qu'il y a de plus impressionnant parce que déjà, on voit que l'IA générative dans le domaine médical est extrêmement puissante comparée à beaucoup de médecins. Et elle va aussi pouvoir travailler sur cette création du lien avec la personne pour pas lui envoyer. Des encouragements qui sont un peu bateaux, mais vraiment le rejoindre de façon intime par rapport à ce qu'on sait de sa vie et de ce qui va l'aider à avancer. Et ça, dans le domaine de la santé, je crois que ça va être une vraie transformation.
Vous embrassez cette technologie ?
Alors, on embrasse complètement cette technologie. Alors, on l'embrasse à deux titres. On l'embrasse au titre des outils en interne dans l'entreprise. Et donc, je pense que la plupart des équipes aujourd'hui, quotidiennement, utilisent ces outils pour écrire du logiciel, pour faire du support, pour faire du marketing, etc. Mais on l'embrasse aussi pour la pousser à nos utilisateurs. Et donc là, on a un très gros projet dont on parlera plus tard sur ce sujet en interne.
Ah ben très bien, il nous tarde de le découvrir. Merci beaucoup, Eric Carrel.
Merci à vous.
Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co, la quotidienne, ici à VivaTech. Et vous restez avec nous, on revient dans un instant. Il est bientôt 21h avec au sommaire pour notre deuxième partie de ce Tech & Co. Eh bien, écoutez, plein de bonnes choses. Dans un instant, nous allons parler d'ADP avec l'aéroport du futur et notre invité. Louis, l'avatar qui vous guide dans VivaTech. Vous savez que une start-up a développé ici un avatar qui va vous permettre de vous guider dans VivaTech. C'est plutôt intéressant. On en parle dans quelques instants avec nos invités. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Et nous allons nous intéresser maintenant à ADP avec notre invité Edouard Arkwright qui est là. Bonjour Edouard.
Bonjour François.
Directeur général exécutif du groupe ADP. ADP qui est présent ici à VivaTech. De quelle manière en fait ? Évidemment, vous avez un beau stand que j'ai pu apercevoir. L'idée pour vous, c'est quoi ? C'est de présenter un petit peu des innovations que ADP porte. C'est ça, avec des partenaires ici ?
Alors l'idée, c'est de mettre en avant les innovations. Nous, l'innovation et l'aérien et l'aviation, ça va ensemble depuis le début. On est né d'une histoire d'innovation, de le faire autour de deux thématiques. Le parcours passager, puisque comme les 350 000 passagers tous les jours à Paris ou le près d'un million de passagers tous les jours dans le monde, nous attendons un parcours plus fluide, plus simple, plus accessible. Et donc ça ne se fait pas tout seul. Et puis notre grand enjeu, c'est évidemment la décarbonation d'une manière générale. Et l'enjeu du moment, c'est l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, le monde.
Vous êtes prêt pour les JO ?
C'est un propos immodeste, mais à date, aujourd'hui à VivaTech, à ce stade, nous sommes prêts.
Oui, il est impossible de dire que vous serez prêt à 100%. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver, etc. Mais en tous les cas, de manière fonctionnelle, tout a été surdimensionné pour que vous puissiez... Vous parliez de 350 000 passagers. On va passer à combien pendant les JO ?
On a une idée ou pas ? On sera à 350 000.
Ah, on sera à 350.
On aura le même nombre, d'accord. Mais ça sera des passagers différents. Au lieu de faire leur correspondance à Charles de Gaulle, ils s'arrêteront plus à Paris. Et donc pour nous, ça a un impact, c'est-à-dire quand vous avez 30% des passagers qui ne sortent pas de l'aéroport Charles de Gaulle, et lorsque vous en avez 25% seulement qui ne sortent pas, c'est 5 petits pourcents, c'est comme au péage de Saint-Arnoult, vous voyez, c'est la petite différence. Donc notre enjeu, c'est que ça ne se voit pas, parce que pendant les Jeux, certes, on accueille le monde, certes, on doit réussir les délégations, mais on doit d'abord rendre le service que nos 350 000 clients attendent de nous.
Edouard, tordons le coup aux idées reçues. On va revenir sur Volocopter. Vous étiez venu nous en parler au Salon du Bourget l'année dernière en nous disant qu'il y aurait des volocoptères qui pourraient voler pendant les JO. Pas mal de polémiques. On ne va pas revenir sur les luttes intestines, etc. Parce que la politique s'est mêlée évidemment à tout ça. Est-ce que pendant les JO, il y aura des volocoptères au-dessus de Paris ?
Il y aura des volocoptères au-dessus de Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Vous nous le garantissez ?
Écoutez, à date, je vous le garantis, on a tout fait pour. On travaille avec l'Agence européenne de certification. Notre partenaire Volocopter est totalement mobilisé. Et surtout, on a un soutien extraordinaire des autorités publiques, qu'elles soient de l'État et puis de la région Île-de-France. Valérie Pécresse était encore là tout à l'heure.
Moins de la mairie de Paris, visiblement.
Moins de la mairie de Paris. Après, c'est des enjeux de société. Ça pose des questions de société. Nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est une première mondiale. La première mondiale, c'est pas de faire voler l'appareil. C'est de faire voler régulièrement l'appareil dans une capitale comme Paris. Comme on dit, si ça vole à Paris, ça volera partout dans le monde.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui va se passer pendant les JO ? Le scénario qu'on peut imaginer. L'année dernière, vous nous aviez dit que certains passagers pourraient payer pour prendre Volocopter et d'aller d'un point A à un point B. Ça sera toujours le cas ?
Alors, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça ne sera pas le cas. Il n'y aura pas de passagers payants. En tout cas, ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il puisse y en avoir. Notre principal axe a été la sécurité. Ce que nous faisons à Paris, c'est de faire voler un appareil qui est certifié comme un Airbus A320.
Il a été certifié ?
Il le sera. Nous ne volerons pas si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le faire dans les meilleures conditions de sécurité possible. Et il n'y aura pas de passagers payants si le passager qui monte n'a pas la même assurance que si vous montez dans votre Airbus A320 pour aller à Biarritz ou ailleurs.
Mais bien sûr, et ce qui est tout à fait normal et logique. Pourquoi n'est-il pas encore certifié cet appareil ?
Alors il n'est pas encore certifié parce que ce niveau de certification n'a jamais été atteint pour un appareil de ce type. Les images que vous voyez dans le monde entier de concurrents chinois ou d'autres pays sont des types de certification bien plus faibles que celui que nous cherchons.
Donc nous, on est vraiment au niveau de certification le plus compliqué, le plus difficile à obtenir.
Le plus compliqué, le plus difficile et qui n'a jamais été obtenu. Et la vraie première mondiale, ce qui fera qu'on va damer le pion à tous les autres, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Si on voulait faire le niveau de certification des Chinois, ça serait déjà fait. Mais nous, on ne fera pas voler des passagers au-dessus de Paris avec un appareil qui n'est pas certifié comme un Airbus A320.
Mais Edouard, c'est dans quelques semaines les JO. Qui nous dit qu'il sera certifié ? Est-ce que vous avez des informations comme quoi on arrive au bout de cette certification ? Enfin, je veux dire, là, c'est une course contre la montre,
d'accord. C'est une course contre la montre depuis le début.
Il doit avoir une pression phénoménale pour plein de gens, là.
Mais c'est une course contre la montre depuis le début parce que c'est une course d'enthousiasme. On a tous envie de le faire. Et cette fierté et cet enthousiasme, ils sont communicatifs. Ils sont communicatifs pour réussir l'objectif, je vais y revenir. Ils sont communicatifs pour atteindre la vraie utilité qui est l'usage sanitaire, l'usage d'urgence. Voilà, réussir à rendre les services que cet appareil veut rendre. Alors, si on est précis, il y a deux étapes. Il y a l'étape des Jeux Olympiques et Paralympiques. Là, pour nous, l'objectif, c'est de faire voler un ou deux appareils au-dessus de Paris et probablement au-dessus de Saint-Cyr, au bout du château de Versailles, d'en profiter pour roder les procédures, roder la maintenance, faire voler dans les meilleures conditions possibles et enthousiasmer.
Mais avec des humains à l'intérieur.
Avec un pilote et, s'il accepte, un passager, mais dont il est très probable qu'il ne sera pas payant. Une fois les Jeux terminés...
Donc ça serait des volontaires, en quelque sorte.
Ça serait des volontaires, ça serait des gens qui seraient autorisés par les régulateurs et par le pilote. Pas de risque sur cette phase-là. Ensuite, l'appareil sera certifié, probablement en octobre. Et là, on pourra avoir un passager payant. J'ai employé le mot certifié dans les deux cas parce que le niveau de certification n'est pas le même. Dans le premier cas, c'est une certification qui permet d'emmener des gens qui sont des ingénieurs, qui sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et à partir de l'automne, d'emmener un passager commercial, comme vous, comme moi, qui pourra avoir payé son billet.
Oui, bon, on est d'accord que la première certification sera quasiment la certification définitive, parce que ce soit un ingénieur ou un passager lambda, il faut que ça vole, il faut que ça marche, il faut que ce soit en toute sécurité. On
Bien
est d'accord.
Sûr, mais le quasiment, c'est cette nuance qui nous distinguera ce qu'on fera pendant les Jeux et ce qu'on fera après. C'est une nuance d'importance d'un point de vue de la régulation.
L'année dernière, vous nous disiez en avril, maintenant vous nous dites en octobre. Vous pensez que d'ici la fin de l'année, cette certification sera là ?
Écoutez, oui. Deux ou trois mois de décalage dans l'histoire de l'aviation,
oui,
honnêtement, voilà.
C'est presque un exploit, finalement.
On volera avec un passager commercial avant la fin de l'année 2024. Je pense que maintenant, on est tous convaincus de ça.
présentez-nous une ou deux innovations marquantes qui intéressent les gens, les visiteurs ici que vous présentez à VivaTech, Edouard.
Écoutez, la plus, je pense, intéressante pour les passagers que vous êtes, que nous sommes tous, c'est celle que nous avons avec All The Way, qui est une start-up qui prend en charge votre bagage, qui a enfin réussi à trouver la solution pour vous proposer de récupérer votre bagage dans votre hôtel, à votre domicile, au centre de conférence ou au bureau dans lequel vous êtes passé, et de le réinjecter dans notre circuit bagage. Rien de très complexe dans ce que je viens de dire. Et pourtant...
C'est quoi ? C'est comme une conciergerie, finalement, de bagage ?
C'est comme une conciergerie, mais surtout, l'intérêt, c'est d'avoir calé son processus sur la sécurité aéronautique. Et ce que nous faisons avec All The Way, pour votre bagage, pour celui du bagage individuel, nous allons le faire à grande échelle pendant les Jeux Olympiques, pour les délégations, avec un enregistrement déporté au village olympique, le traitement de dizaines de milliers de bagages au village olympique, leur sécurisation et leur réinjection. Et ça nous projette dans un monde qui est maintenant celui de dans quelques semaines, où vous pouvez voyager en vous ayant débarrassé de votre bagage.
Est-ce que les Jeux Olympiques accélèrent l'innovation chez ADP? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, on va dire, la pression des JO vous a peut-être obligé à accélérer sur certaines innovations que finalement après on conservera ensuite?
Alors, ce qu'on fait, c'est destiné à être conservé. Nous, on est là sur, on est une industrie, on a des centaines de milliers de passagers, donc l'objectif, c'est pas de faire un show, c'est de ce que l'innovation d'aujourd'hui, elle devient industrielle demain.
Donc cette solution perdurera après les JO?
Évidemment. Le principal héritage, c'est pour les personnes en situation de handicap. Où nous allons revoir tous nos processus. Vous avez déjà des salles de change, vous avez des salles ciné pour les chiens, vous avez le fauteuil en passerelle. Voilà, on n'est pas dans de la tech extrêmement innovante, mais pour les passagers, c'est extrêmement innovant. Plus caché, moins visible. Utiliser le LIDAR pour suivre les flux, utiliser les caméras intelligentes pour résoudre des problèmes de congestion routière, notamment sur nos linéaires, utiliser l'échange de données pour faire en sorte que l'expérience passager soit de bout en bout la meilleure et que ça soit un comique pour initier que de savoir si c'est la compagnie aérienne, l'assistant en escale. Voilà, là on est sur l'accélération rendue possible par les jeux.
Merci beaucoup Edouard d'être passé par le plateau de Tech & Co la quotidienne. Edouard O'Quark, donc directeur général exécutif du groupe ADP. On poursuit tout de suite et on s'intéresse à l'opérateur Orange.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà Tech & Co, la quotidienne, depuis VivaTech. Et si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez en fait tout ce monde autour de nous. Hein. Nous sommes vraiment le plateau de Tech & Co est au cœur de ce salon. Et on poursuit avec quelques innovations que l'on vous fait découvrir, quelques stratégies aussi de grands groupes. C'est le cas maintenant avec Orange et Bruno Zerbib qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif en charge de l'innovation chez Orange. Orange présent, enfin partenaire historique hein, en fait, de VivaTech. Alors, hein.
Tout à fait. On est là depuis le début.
Voilà.
En fait, Orange a vraiment cru dans les... dans l'investissement dans les startups depuis le tout début, hein, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis on espère surtout être une plateforme qui va permettre à ces startups de scaler et de vraiment se développer à grande échelle.
Voilà, alors vous présentez pas mal de choses, pas mal de partenariats avec Google Cloud notamment. Mais on va faire un focus sur un sujet qui est passionnant, Bruno. C'est l'intelligence artificielle générative. On l'a vu, on en parle beaucoup dans Tech & Co, la quotidienne. Depuis quelques jours est arrivée la nouvelle version de ChatGPT, la 4o. Qui est une petite révolution hein, et qui, au-delà du fait d'être multimodal, qui maintenant gère l'audio, la vidéo et le texte, elle a aussi comme particularité d'être ultra rapide dans son temps de réponse. Je ne sais pas si vous avez testé en fait ChatGPT 4o, mais c'est impressionnant. En fait, on a l'impression de discuter véritablement de manière fluide avec quelqu'un, en tout cas avec une entité. Et vous me disiez quand on préparait cette interview, Bruno, que ça va tout changer pour les opérateurs télécoms.
Ça va absolument tout changer. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu les présentations de 4o, le O c'est bien omnimodal, hein, on passe d'une réponse, d'un délai de réponse de 3 secondes à 0,3 secondes. C'est comme ça en fait qu'on crée une expérience complètement naturelle qui ressemble en fait à une conversation entre deux êtres humains, entre nous.
Parce que 3 secondes, c'est toujours un peu clivant, c'est-à-dire
exactement.
Que ça va casser les échanges, etc. 0,3 secondes. C'est naturel.
Et si vous regardez cette présentation, cette démo d'OpenAI, il y a quelque chose d'absolument remarquable. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Le présentateur, en fait, celui qui va faire la démo, prend son téléphone et câble son téléphone à Internet en disant on va devoir être sûr que l'expérience de connectivité va être complètement prévisible afin de vous faire la démo.
C'est-à-dire qu'il s'est dit que le Wi-Fi n'était peut-être pas assez puissant. Il fallait malgré tout avoir un câble sur le téléphone pour avoir une connexion parfaite.
C'est-à-dire que la connectivité, dans un monde en fait, qui va être dominé par l'intelligence artificielle, la connectivité telle qu'on la connaît en fait, va radicalement évoluer. Les temps de réponse vont devenir en fait, extraordinairement importants. La disponibilité, la capacité à avoir vraiment une fiabilité parfaite, puisqu'en fait on parle d'un bouleversement de nos utilisations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment assimiler ce que veut dire 4O. C'est un outil qu'on va utiliser systématiquement, enfin 4O et toutes les autres technologies équivalentes. Donc pour nous, c'est un défi technologique gigantesque. On passe en fait d'une vision, on va dire, un peu historique des réseaux qui étaient des réseaux de download, hein, pour faire, on va dire, du Netflix, oui, à un réseau d'upload, et notamment sur les réseaux mobiles, qui vont en fait maintenant devoir garantir, avec l'émergence, comme vous le disiez un peu plus tôt, d'input qui vont venir peut-être de vos lunettes Ray-Ban, on l'a vu avec Meta, en streaming permanent de vidéos 4K demain, d'audio, et tout cela va devoir fonctionner tout le temps. Ça va être la nouvelle base d'inférence en intelligence artificielle.
Cela dit, vous êtes un petit peu préparé à tout ça avec les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, où on upload beaucoup de données aujourd'hui. Mais vous dites que là, on va jouer en Ligue 1. C'est-à-dire que, en fait, ces données vont être démultipliées par cette intelligence artificielle générative qui va nous écouter tout le temps, en fait. C'est ça ?
C'est exactement ça. En fait, vous avez raison, hein. C'est-à-dire que le fait de mettre sur Internet, depuis ce qu'on appelle l'Internet 2.0, donc c'est pas tout jeune, de mettre de la vidéo, du contenu, c'est une chose. Mais là, c'est pas des influenceurs, c'est pas des youtubeurs, c'est l'intégralité, oui, de la population mondiale qui va streamer en permanence avec des attentes de temps réel. Donc c'est une véritable révolution. Et d'ailleurs, quand on est passé de la 4G à la 5G, on s'est posé la question, à quoi servait la 5G ? Donc nous, on le sait, hein. C'est une technologie bien plus fiable, qui consomme beaucoup moins d'énergie et qui est beaucoup plus qui protège notre planète en termes d'émissions de CO2. Mais ça n'a pas suffi pour expliquer fondamentalement à quoi servait la 5G, parce que la 5G avait besoin de sa killer application. La killer application de la 5G, c'est l'intelligence artificielle.
Ça veut dire que pour vous, c'est un sujet, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il va falloir upgrader du matériel, il va falloir être vigilant sur la qualité du réseau, sur l'encombrement du réseau. Parce qu'il faut anticiper. Votre métier, c'est d'anticiper tout le temps.
Alors, on anticipe absolument. C'est une obsession chez nous, chez Orange. Et on va dire, au niveau de l'industrie, on a bien compris qu'on avait une révolution qu'on devait adresser.
Vous l'avez vu arriver, cette révolution, sincèrement, ou pas ?
Pour être très honnête, on savait qu'on allait avoir une accélération de l'intelligence artificielle générative. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de spécifique. Mais la rapidité, vous savez, vous avez ce qu'on appelle le hype curve. Et généralement, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, on commence à être un peu déçu. La technologie finalement décolle pas aussi vite que prévu. On l'a vu avec le métaverse il y a 2 ans. Alors que là, pour la première fois de toute ma carrière, on a une technologie qui continue de challenger le modèle du hype curve, qui en fait innove plus rapidement que prévu. Ce que vient de sortir OpenAI avec la 4O, avec des temps de réponse de 0,3 secondes et avec surtout des fonctionnalités incroyables, on ne peut pas dire qu'on l'avait anticipé pour être aussi rapidement disponible. Donc on est clairement dans une phase d'accélération, et qui n'est pas une accélération linéaire, quelque chose qui nous dépasse un peu tous.
Et concrètement, techniquement, ça exige des mises à jour de matériel, tout ça, ou est-ce que finalement la 5G était prête à cette technologie-là ?
La 5G, en fait, c'est vraiment un aspect de la problématique. C'est vraiment en fait les technologies, surtout les technologies de type radio. Ce qui est très important pour pouvoir gérer ce type de service émergent, c'est l'intelligence. Et donc, il nous faut en fait basculer d'un monde de connectivité en mode best effort, on fait au mieux. Et on voit par exemple les applications de type OTT comme Netflix, quand il y avait un ralentissement de bande passante, elles pouvaient bufferiser,
oui,
à en fait à un monde qui n'est plus best effort mais qui est temps réel. Et là en fait on doit mettre énormément d'intelligence, en fait on doit être capable de s'engager sur de la qualité de service pour ces applications qui vont être en temps réel et qui vont utiliser de l'intelligence artificielle.
J'imagine que l'IA générative, alors c'est un exemple passionnant, mais Orange embrasse cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, justement, d'applicatif où l'IA générative arrive ? Je ne sais pas, moi, est-ce que demain, ça va faciliter le SAV, par exemple, ou les hotlines ?
Exactement, tout à fait. Demain, de toute façon, moi, je pense qu'on a tous nos expériences de chatbots qui sont plus ou moins frustrantes.
Plus ou moins réussies,
et en fait, les technologies des chatbots, et maintenant, c'est toujours plus facile en 2024 de la regarder avec un peu d'un esprit critique, mais ça n'a jamais été une expérience humaine naturelle. Imaginez maintenant qu'on remplace ça avec des LLM,
ça va être terrible.
Ça va être complètement différent.
Merci beaucoup Bruno
d'être
passé par le plateau de Tech & Co, la quotidienne. Orange bien évidemment qui est présent ici à Vivatech. Vous êtes directeur exécutif en charge de l'innovation chez Orange. Merci.
Merci.
Et vous restez avec nous. On va terminer ce Tech & Co avec notre rendez-vous avec Fanny Bouton et OVH Cloud comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà, et pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne, deuxième jour, eh bien, j'accueille Fanny Bouton, bien sûr. Salut Fanny.
Bonjour François.
Responsable du programme Startup d'OVH Cloud. Fanny qui est venue avec Christophe Renaudino ce soir. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Fondateur de Jumbo Mana. Voilà, une belle pépite d'intelligence artificielle qu'on va découvrir dans un instant, même si on a déjà parlé de vous il y a quelques mois. C'est toujours intéressant de revenir, d'autant que vous avez une actualité ici à Vivatech. Fanny, pour débuter... OVH Cloud, donc présent ici à Vivatech. Fais-nous une petite sélection d'un tien de start-up IA que tu as vu et qui t'ont charmé.
Oui, bah alors justement, alors d'ailleurs, j'ai te rappelé que OVH Cloud et l'IA, c'est une longue histoire d'amour, quoi. Ça date depuis au moins 2017.
Ben ouais, entre le quantique et l'IA, t'as beaucoup d'histoires d'amour, dis-moi.
Ouais, bah oui, mais c'est la tech.
Mais oui.
Et en ce moment, d'ailleurs, il y a une bêta avec Mistral IA et Meta sur nos infrastructures. On peut utiliser les dernières versions de LLM. Donc,
c'est top.
C'est en alpha pour ceux qui voudraient tester. Donc, toute entreprise qui a envie de venir faire des tests, n'hésitez pas.
Donc, là, on va sur OVH Cloud, tout est expliqué.
Ouais, exactement. Okay. Sur Public Cloud, IA, et vous allez trouver.
Intéressant ça.
Ouais, ça bouge bien. On a avec des nouveaux GPU aussi, les L40S qui viennent d'être lancés. Donc les spécialistes sauront de quoi je parle.
C'est la Formule 1 du GPU de Nvidia.
C'est pas mal, il paraît.
Il paraît que c'est pas mal.
Et alors, il y a 90 startups françaises de l'IA sur Vivatech, sur 154 à peu près, que j'ai essayé de comptabiliser dans les 2000 et quelques qui sont présentes sur le salon.
Tu les as comptées, 1, 2, 3.
Non, il y a des tableaux fabuleux pour faire ça. Et de l'IA, tu peux demander à certains chatbots maintenant de t'aider pour gagner du temps.
Oh là là, quelle belle transition. On va en parler dans un instant.
Voilà. Non, mais des startups. Il y a Lighton que tu connais très bien, allez. Gladia qu'on a déjà vu, DataTG ou Bing Dream. Mais là, je vais t'en montrer une qui est très marrante, très grand public, comme je sais que tu aimes ça. C'est Brian Sings qui fait des bornes photos, tu sais, les photos matons et autres,
ouais.
Mais maintenant avec de l'intelligence artificielle intégrée. Donc, moi, j'ai connu Photoshop 2 où je mettais 40 minutes pour avoir un flou gaussien à 20% et pour faire un pomme Z, c'était pareil. Et ben maintenant, tu fais ta photo. Ils mettent ça dans les musées, donc je ne sais pas si on voit bien.
Ouais.
Et voilà, j'ai fait ça en 5 minutes, ces 3 photos.
Alors,
sur
Fanny
le salon.
Wonder Woman.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on a aussi ?
Choisissez là où je suis le mieux. Mais...
voilà, pas mal.
voilà, ce sont des photos matons. Alors, ils les mettent essentiellement dans des musées, mais... tu prends ta photo et 30 secondes après, tu choisis ta thématique. Et voilà, donc il y a beaucoup aussi d'œuvres d'art. Tu peux te mettre un petit peu en mode Mona Lisa et autres. Bon, j'ai choisi les super-héros.
Et c'est made in France, tout ça.
C'est made in France, ouais. Brian Sings, ils ont fait l'évolution de la cabine photo depuis plusieurs années. Mais là, je trouve vraiment ça sympa parce que c'est compliqué de faire ça, d'intégrer un visage, de remettre les cheveux,
teint.
Et surtout, oui.
Et en étant...
c'est mieux que le maquillage.
En étant réaliste.
J'ai regagné 10 ans. Oui. Ouais.
Tu me donneras l'adresse pour que j'y aille aussi. Je crois que j'en ai besoin. Autre petite start-up pour nous.
Oui, alors Bing Dream, que j'ai cité, c'est une start-up dans la deep tech qui propose un outil numérique afin d'itérer à l'infini. Pareil, tu sais, tu fais des petits croquis tout pourris pour expliquer et ça te sort le graphique super beau, tout design qui va bien. Et Dieu sait qu'il y a plein de gens qui en auraient besoin pour préparer des belles slides pour leur PowerPoint ou pour des réunions. Voilà.
Ouais, en fait, tu fais des petits schémas, tu gribouilles des trucs.
Exactement.
Et l'IA comprend en fait ce que tu as gribouillé et te redessine tout ça proprement.
Ouais, et ça, je trouve ça aussi génial parce que on n'a pas tous ce talent de bien dessiner et du coup, ça facilite la vie.
Très bien. Derrière toi, tu as des gens qui font coucou.
Ah bah.
Coucou. On vous a vu, hein. On vous a vu.
C'est les fans, qu'est-ce que tu veux?
Mais bien sûr, c'est ça. On enchaîne avec Jumbo Mana.
Oui.
Pas mal,
c'est
Christophe.
C'est une belle start-up du programme que je suis très fière d'accompagner.
Voilà, alors évidemment qui est accompagnée par OVH et qui ici a une actualité forte. C'est que vous êtes un peu le chatbot de Vivatech, c'est ça?
Oui, donc on a créé un personnage qui s'appelle Louis. Et
un avatar
conversationnel, c'est notre expertise. Et le but, c'est vraiment qu'il ait toute la connaissance de Vivatech et qu'il puisse bien sûr nous informer, mais aussi nous guider, nous accompagner dans les allées du Vivatech pour trouver les stands, des startups justement IA et vraiment pouvoir accompagner ainsi tous les usagers au bon endroit avec la bonne information.
Alors vous passez de Van Gogh à Louis, vous êtes comme ça.
C'est ça. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avatar conversationnel. Donc c'est vraiment d'avoir l'IA en frontal sur le grand public et de travailler justement la véracité des propos, la sécurité data pour que le grand public, que les modèles soient modérés et soient garants de la véracité de tout ce que l'entreprise souhaite avec ses valeurs, sa ligne éditoriale.
Oui, je parlais de Van Gogh, hein, Fanny, parce que on vous a connu par ça, en fait. Hein.
Oui.
Vous avez donné la vie à Van Gogh.
C'était l'avatar de Van Gogh au musée d'Orsay.
C'est ça.
Et exactement.
À qui on pouvait poser des questions et il
y répondait. On peut toujours, d'ailleurs, je crois.
On peut toujours. Et là, on a même Arthur Rimbaud qui l'a rejoint la semaine dernière, du coup, à son musée éponyme. Et le but, c'est d'étendre vraiment au-delà à tous les centres d'accueil, notamment on travaille avec Vinci et leurs aéroports, pour que lorsque typiquement un Japonais arrive au JO et se retrouve complètement perdu parce qu'il a perdu ses bagages, il y a des grèves et plein d'imprévus,
wow.
Et nous on va l'accompagner dès le premier mètre franchi pour qu'en effet notre avatar qui parle japonais lui dise tes bagages sont en retard, 15 minutes. T'en fais pas, on gère la situation, t'as le temps de prendre un café et je vais t'accompagner jusqu'au café.
Et ce chatbot là, alors ça fait 48 heures que Vivatech a commencé, quels sont les premiers retours, Christophe? Ça va? Ça se passe bien? Ça
oui,
marche?
Très bien, ils sont plutôt très, très concluants.
Là, n'importe qui peut y accéder?
Exactement, sur nos stands, donc ils sont disposés un peu partout sur Vivatech,
ouais.
Via des bornes ou des écrans tactiles. Justement pour communiquer avec lui et les gens s'amusent justement à interagir avec lui et à en savoir plus sur les sessions de Vivatech.
Et on ne peut pas l'avoir sur le smartphone, avoir notre petit compagnon dans la poche?
Pas encore. Disons que la collaboration avec Vivatech,
la finalité, c'est ça, on est
c'est
d'accord.
C'est ça, donc la prochaine. On était un peu court, ouais, avec Vivatech pour avoir une expérience omnicanal, mais bien sûr nous on travaille sur des bornes comme avec Van Gogh, mais sur smartphone et sur site web,
donc,
tout en un.
Vincent Van Gogh, Arthur Rimbaud, Louis Vivatech, c'est ça?
C'est ça.
C'est un peu spécial. Mais Louis,
belle
lui aussi
boîte,
en salle presse
même,
média. Oui, parce que c'est dur d'entraîner toutes ces données, d'avoir des réponses cohérentes. C'est la force de l'IA aussi. Ouais. Et de
il y a eu pas mal
de
déceptions aussi sur les chatbots. Hein. Enfin, je veux dire, les chatbots première génération, c'était pas très glorieux.
Ça n'a rien à voir. C'était des arborescences, en fait, ouais, de... oui, non, peut-être. On ne pouvait pas parler naturellement à ces premiers chatbots. Il fallait vraiment avoir des réponses spécifiques. Et puis, c'était des réponses très ciblées. Alors que là, on entraîne énormément de données. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté créatif qui arrive à reformuler des phrases, à s'adapter à la question.
Eh bien, merci beaucoup. Oui, Christophe.
Merci. Non, je disais juste, c'est vrai que moi, je dis souvent dans les chatbots ancienne génération, 90% du temps, on n'a pas la réponse où il dit « je ne sais pas ». Là, avec les LLM et nous, ce qu'on propose, c'est que 90% des temps, on a des réponses pertinentes.
D'accord, donc on inverse en fait les statistiques, ce qui est plutôt pas mal. Merci Fanny.
Mais de rien, merci.
Responsable du programme Startup d'OVH Cloud, on te retrouvera lundi. Ça sera avec Fred Simotel. Et merci à Christophe Renaud.
Merci beaucoup.
Avec Jumbo Mana. Voilà, ce Tech & Co, la quotidienne en ce jeudi soir est terminé. Alors, bien sûr, Vivatech, on le vit à fond sur BFM Business avec demain De quoi je me mail. Voilà, avec toutes les actualités, tous les coups de cœur de tous nos journalistes qu'on vous fera vivre. Et puis, Tech & Co Business en compagnie de Fred Simotel. Fred Simotel qui sera là aussi lundi. Ce sera un peu l'émission bilan de Vivatech qu'on enregistrera ce week-end. Merci en tous les cas de nous suivre et on vous retrouve évidemment très très vite. À bientôt.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.